Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Du biologique à l'écologique, du zéro déchet à l'upcycling, de l'associatif à l'entrepreneuriat, vous découvrirez un nouvel invité qui nous partagera son parcours, ses actualités et ses projets. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes de Basilic sur votre smartphone, dans votre application de podcast ou bien évidemment sur notre site internet basilicpodcast.com. Bonne écoute à tous!
À quand remonte votre dernière sortie au cinéma? Hier soir, il y a quelques jours ou quelques semaines? Eh bien, je vous propose d'y retourner très bientôt en vous offrant deux places pour le film 2040 de Damon Gammo. Dans ce nouveau film, Damon Gammo s'interroge sur l'avenir de nos enfants. À quoi pourrait ressembler leur futur en 2040 si nous adoptions simplement des solutions déjà disponibles pour le traitement de la nourriture, de l'énergie et de l'éducation? Ce film plein d'espoir est à visionner de toute urgence. Je vous donnerai le détail du jeu concours à la fin de l'épisode. Cette semaine, je reçois Aurélie, cofondatrice de Soie Paris. C'est avec sa sœur Julia qu'Aurélie a imaginé une marque de vêtements originale mettant en valeur les belles matières, les coupes simples et des imprimés uniques. C'est Julia qui imagine et dessine chaque imprimé. Le vêtement est le support de son art. Lorsqu'elles ont créé Soie Paris il y a quelques années, Julia et Aurélie ont privilégié l'humain. Elles ont veillé à choisir un lieu de fabrication éthique où l'humain est respecté et valorisé. Au fil des années, Julia et Aurélie ont évolué et leur conscience écologique également. Lorsqu'elles ont décidé de travailler de nouvelles matières, ces deux sœurs ont misé sur des lieux de production plus proches de la France. Elles suivront d'ailleurs, Aurélie en parle dans l'épisode, une formation pour en apprendre davantage sur les textiles et les alternatives plus écologiques que l'on peut proposer aujourd'hui. Le discours d'Aurélie m'a beaucoup plu, j'avais envie, pour une fois, de rencontrer une marque en pleine évolution, prête à repenser et améliorer certains domaines de son activité pour rendre sa démarche plus responsable et plus engagée. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute à tous. Bonjour.
Bonjour Jeanne.
Est-ce que tu peux commencer par te présenter et présenter ta sœur également?
Bien sûr. Je m'appelle Aurélie Boutboul, j'ai 33 ans et donc j'ai fondé avec ma sœur la marque Soie Paris. Soie Paris, qui est une marque de prêt-à-porter féminin spécialisée dans les imprimés que ma sœur dessine, uniquement sur de belles matières dont la soie a été notre premier amour. Voilà.
Quand est-ce que vous avez décidé de créer Soie Paris?
On a lancé la marque en avril 2016, donc ça va faire 4 ans que la marque existe.
Et alors?
Alors, hyper excitant, des hauts, des bas, une super aventure familiale à deux, des rencontres incroyables avec nos clientes, une aventure extraordinaire, c'est difficile de décrire, mais c'est 4 ans qui sont passés à toute vitesse avec des projets multiples. 4 ans qui ont aussi donné du sens à ce qu'on fait. C'était, je pense, pour ma sœur et pour moi, la vraie raison pour laquelle on s'est lancé. Moi, c'est vrai que j'ai travaillé dans des grands groupes avant. Alors, j'ai eu une excellente formation. Donc, je pense que ces grands groupes m'ont vraiment donné le meilleur de ce qu'on peut avoir. Mais j'avais envie, finalement, de faire des choses par moi-même, donner du sens à ce que je fais et donc de créer des choses de par mes 10 doigts. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, une fierté et une réussite est bien plus impactante et donne beaucoup plus de sens à mes actions qu'hier. Donc c'est une super aventure.
Est-ce que ça avait été une évidence pour vous d'entreprendre ensemble, de créer Soie Paris ensemble ou pas vraiment?
Alors déjà, c'est vrai qu'on baigne dans un univers entrepreneurial, puisque nos parents et même nos grands-parents sont entrepreneurs. Pas du tout dans le secteur de la mode, en revanche. Mon père dans la pharmacie et ma mère dans la logistique. Donc vraiment aucun rapport. Et en fait, l'idée de soi, tout est venu d'une envie créative de Julia. Puisque au début, elle souhaitait vraiment dessiner des imprimés. Laisser libre cours à sa créativité, à son imagination, sans trop savoir quoi en faire. Et puis, au fur et à mesure, elle s'est dit, tiens, mais finalement, le meilleur support pour faire vivre ses imprimés et faire vivre ses couleurs, ce serait la soie. Donc, au fur et à mesure, elle a cherché des fabricants. Elle habitait à l'époque à Singapour, donc ce qui lui a permis de se rapprocher aussi de la Chine, là où la route de la soie, là où tout vient. Et donc petit à petit, elle s'est dit, ok, donc là, je vais avoir une capsule avec des vêtements, il va y avoir des chemisiers, des robes, des foulards, puisqu'on avait commencé avec une toute petite capsule imprimée. J'ai un produit, comment je fais pour vendre ? Donc ça a été la grosse question. Et en fait, moi, en parallèle à cette époque, justement, je travaillais chez L'Oréal avec, en fin fond, un peu l'idée de me dire un jour ou l'autre, j'ai vraiment envie d'entreprendre sans trop savoir dans quoi. Après, j'ai toujours aimé les beaux produits. Voilà, j'ai travaillé dans les cosmétiques. Donc pour moi, il fallait que ce soit quelque chose qui me plaise. Mais voilà, sans trop savoir. Et en fait, quand Julia m'a parlé de ce projet, ça a été une évidence tout de suite, parce qu'on s'est dit, on est ultra complémentaires. Julia s'occupe vraiment de tout ce qui va être créa. Donc aujourd'hui, c'est elle qui gère la création des imprimés, le développement produit, le sourcing, et également toute la partie image de marque. Et moi, de mon côté, je vais plus m'occuper de toute la partie stratégique et commerciale, donc développement de la marque, pour qu'elle rayonne. Donc c'est vrai que très rapidement, on s'est dit, ok, on est ultra complémentaires. Puis il y avait une phrase qui résumait, c'était « toi, moi, soi, on y va ».
Pas mal.
Et donc Julia, une fois qu'elle a eu son idée et qu'elle a choisi de faire imprimer sur de la soie, comment ça s'est passé ? Elle s'est rendue en Chine ? Comment elle a pu trouver les fournisseurs ?
Donc effectivement, elle habitait à Singapour à l'époque. Après, elle rentrait régulièrement en France. Elle est allée en Chine faire le tour de différentes usines, mais en réalité, là où elle les a trouvées, c'est en France, au salon Première Vision.
D'accord.
Donc il y a un grand salon pour rencontrer en fait des fournisseurs de textiles. Et là où on a eu énormément de chance, c'est qu'en fait on a trouvé une usine qui est une assez grosse usine, donc qui a l'habitude de travailler pour des grandes et belles marques, du Hervé Léger, du Missoni, voilà, des marques qui nous font rêver. Et en fait, ils ont été séduits par le projet. Je pense qu'ils ont aimé notre énergie, ils ont aimé la créativité de Julia, ils ont aimé le côté différenciant de ses imprimés et de ses belles couleurs. Et donc, ils ont accepté de nous accompagner sur des petites quantités, puisque forcément, au début, on ne rencontre absolument pas les minimums imposés, surtout là-bas. Et donc, l'aventure s'est faite comme ça. Et au fur et à mesure, donc, comme elle habitait à Singapour, elle a fait pas mal de voyages sur place, bien sûr. Et en fait, ça s'est fait petit à petit comme ça. Elle a sélectionné différentes matières, parce que ce qui est très riche dans la soie, c'est qu'il y a une infinie variété de tissus. En fonction du tissage, on va avoir des mousselines de soie très légères, très aériennes, très vaporeuses. Quand on les porte, c'est comme une seconde peau. On va avoir des twills de soie, où là, il y a un côté plus strié, plus épais, plus opaque. On peut aussi apporter des traitements adoucissants qui vont donner ce côté peau de pêche à la soie. La soie, c'est assez fascinant finalement parce que ça peut prendre de multiples formes à travers une seule et même matière. Et donc, c'est vraiment cet aspect qu'on a souhaité travailler et qu'on a pu faire grâce à ces fabricants qui sont vraiment experts de la matière, de la soie, puisqu'ils élèvent eux-mêmes les verres à soie. Ils tissent la soie, ils l'impriment et ils confectionnent. Donc en fait, aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une traçabilité complète sur la matière et de savoir vraiment de A à Z comment est-ce qu'elle a été faite.
Oui, c'était important pour vous de quand même pouvoir sourcer la matière et de vous assurer que les conditions de travail soient bonnes.
Hyper important. Pour nous, c'était primordial. Pour nous... Honnêtement, ça fait partie de l'ADN de la marque, ça fait partie des valeurs qu'on avait envie aussi de promouvoir. Il y a une valeur un peu qui nous anime avec Julia, c'est « do it well or don't do it ». Et donc pour nous, en fait, c'était fondamental dès le début dans nos choix de production qu'ils soient raisonnés et qu'on fasse du mieux possible, parce que après c'est évident que tout est perfectible. Mais dans l'idée, en tout cas, on voulait débuter par justement un sourcing qui nous permette d'avoir cette traçabilité. On y va très régulièrement. En fait, à chaque saison, on va là-bas, ce qui nous permet à la fois d'avoir de très bonnes relations avec ses fournisseurs. Et en fait, ça, c'est primordial, finalement, pour qu'une relation et que ce partenariat puisse s'installer. Et également, comme tu le disais, de constater les conditions de travail et de voir que c'est absolument impeccable, que tout est... ils ont énormément de certifications aujourd'hui. Les usines d'impression ont toutes les certifications Ecotex, les usines de confection, les certifications RAP et ISO. Donc pour nous, ça, c'était quelque chose de très, très important. Et c'est quelque chose qui guide tous nos choix aujourd'hui, puisqu'on va même au-delà de la soie maintenant. Mais donc, dès qu'on fait un choix de sourcing, on souhaite qu'il soit vraiment... raisonner.
Et en 4 ans, comment cette réflexion a évolué ? Est-ce que vous êtes confronté à de nouvelles problématiques, de nouveaux enjeux ? Est-ce que aussi vos consommateurs sont dans l'attente de quelque chose qui soit un peu différent ?
Alors, c'est une très bonne question. En 4 ans, clairement, ça a évolué. Déjà, la première chose, et ça concerne la marque, c'est qu'on a souhaité étendre la gamme de produits. Étendre la gamme de produits, ça voulait dire sourcer d'autres matières que la soie. Par exemple, pour l'hiver, c'est vrai qu'on s'est assez rapidement rendu compte qu'on allait avoir besoin d'une offre un petit peu plus chaude, d'aller sur des lainages. Donc typiquement, on est allé se sourcer directement en Italie pour notre laine. Donc on va avoir des très très belles laines de costumiers italiens, en fait, qui nous permettent de garder toujours ce côté matière noble, belle matière, qui fait partie de l'ADN de la marque. Mais donc, c'est vrai que ça a été des nouveaux challenges, puisqu'on a dû aller se sourcer ailleurs, travailler avec de nouveaux fabricants également, puisque donc là, par exemple, ce qu'on source en Italie, on le fabrique désormais en Europe. Donc, on a 2 ateliers, un en Moldavie et un en Pologne. On s'y rend également régulièrement. Ils ont également pas mal de certifications ISO, RAP, Cotex également. Donc pour nous, ça, c'était très important. Donc je dirais, ça, c'est le premier point qui a changé, c'est vraiment l'évolution de la matière. Et après, ça, on le voit, c'est une évolution aujourd'hui du marché, une évolution des attentes des clients. Qui sont de plus en plus conscients, de plus en plus demandeurs de transparence, de plus en plus en quête d'informations et en quête de justement trouver des choses à consommer qui leur conviennent. Donc par exemple, là, on a un gros projet qu'on est en train de mettre en place qui va être le premier sac soie. Donc on se lance dans la maroquinerie, qui est une extension finalement assez naturelle pour une marque de prêt-à-porter féminin. Et donc ce sac, alors pour la petite histoire, nous on est une marque qui est très proche de ses clients, très proche de ses consommateurs. On les fait régulièrement parler. Donc là, typiquement, on a fait un énorme sondage en leur demandant, est-ce que vous pouvez... on avait une petite quinzaine de questions. Comment est-ce que vous imaginez le sac idéal soie ? Et donc, on a eu un petit peu plus de 1500 réponses qui nous a permis de aussi vraiment dégager des tendances de fond. Et donc, bien entendu, une des questions était sur la matière. Il en est ressorti une majorité écrasante qu'on avait anticipée et on savait de toute façon qu'on voulait aller là-dedans pour essayer de travailler sur des cuirs alternatifs. Donc là, typiquement, on est en plein dedans. On est en pleine recherche de cuirs alternatifs. Donc on est en train de regarder des cuirs à base de champignons, des cuirs à base de pommes, des cuirs à base d'ananas, le pignatex. Qu'est-ce qu'on regarde d'autre ? Des cuirs à base de riz. Enfin, il y a énormément de possibilités. Après, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'il faut bien entendu associer style à matière.
Bien sûr.
Ça paraît en fait primordial. Et à côté de ça, le cuir, par exemple, aujourd'hui, ça a quand même une vertu, c'est que c'est ultra résistant. Ce qui n'est pas forcément le cas de toutes ces matières alternatives. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué en fait de trouver quelque chose qui réponde à la fois à cette envie beaucoup plus éco-responsable et en même temps à un produit qualitatif comme on sait le faire. Donc voilà, je trouve que ça c'est ça, le gros challenge du moment, c'est comment réussir à concilier à la fois éco-responsable, style et qualité. Pour moi, c'est le gros challenge, mais on va réussir à le relever.
Ce qui est intéressant, c'est d'avoir consulté vos consommateurs, consommatrices, pour vraiment cerner ce dont ils ont envie et éviter de produire un produit qui finalement ne leur plairait pas et se retrouver avec des stocks dont on ne saurait pas quoi faire. Et ça, je trouve que c'est pertinent et je pense que les marques vont de plus en plus dans cette direction d'échange, notamment les plus petites marques, enfin petites on s'entend, mais les marques voilà, les plus petites qui sont à l'écoute de leurs consommateurs. Et ça, je pense que c'est aussi l'avenir de la mode, c'est de créer une mode à l'écoute des gens et plus de proposer des collections, de balancer des collections à la figure des consommateurs et vraiment de les écouter, les impliquer.
Complètement. Et pour rajouter à ça, ce qui est dingue, c'est que en fait les gens aiment donner leur avis, les gens aiment qu'on les écoute. Et les gens ont ce besoin aussi de reconnaissance et de se dire bah, finalement j'ai participé à ce projet. Et ça revient un peu à ce qu'on disait au début, mais à donner du sens à nos actions. Et donc on le voit, effectivement nous on les interroge quand même très régulièrement. Par exemple l'année dernière on a ouvert notre première boutique qui est située dans le Marais à Paris, rue Vieille du Temple. Et on les avait interrogés sur la décoration de la boutique en leur demandant, bah voilà, nous on a envie de vous accueillir dans un lieu qui soit à votre image. Finalement, ce lieu, on le fait pour vous rencontrer, pour que vous y sentiez bien. Et voilà, que ce lieu vous incarne. Et donc, on leur avait demandé, bah, est-ce que vous préférez telle lampe ou telle lampe, tel canapé ou tel canapé, une couleur de façade. On est même allé très loin, puisque on avait peint la façade dans un rose, mais qui était un peu un beige saumonné. Avec Julien, on se disait, est-ce que c'est vraiment nous ? Nous, on a quand même un rose, le rose soie, qui est assez marquant et voilà, qui fait partie de notre ADN. Et donc, on avait interrogé notre communauté sur Instagram en leur demandant, bon, on change ou on change pas ? Et je crois qu'on avait eu 80% de personnes qui nous avaient dit, non, là, les filles, il faut changer, c'est pas vous, on ne reconnaît pas
ça.
Soi,
va pas.
Ça va pas. Et donc, en fait, c'est des échanges qui permettent de construire la marque à plusieurs. Et nous, nos plus belles fiertés, finalement, c'est quand, encore hier, on postait une photo de... On a eu, par exemple, Anne-Sophie Lapix qui a porté un de nos chemisiers au JT. Et je sais qu'on a plein de clientes qui nous ont envoyé « Mais je suis tellement fière, regardez, il y a votre chemisier qui est à la télé, j'ai le même, je suis fière de vous, les filles. » Et en fait... On ne se parle pas d'amis, on ne se parle pas de famille. Là, on se parle de clientes, donc de personnes qu'on a réussi à toucher par la marque parce qu'elles se sentent impliquées dans ce projet. Et ça, je trouve ça génial.
Ouais.
Je trouve ça génial. Pour moi, c'est une des plus belles fiertés, en tout cas.
C'est hyper important. C'est un lien hyper important et très précieux. Faut pas le perdre.
Tout à fait.
Alors, si on revient aux matières que vous utilisez... Donc, au départ, vous vous êtes vraiment lancé avec des chemisiers dessinés et imaginés par Julia. Donc voilà, des imprimés, je mettrai des photos en barre de description, mais des imprimés vraiment très originaux, uniques. Et tu le disais tout à l'heure, vous avez développé d'autres matières, donc la laine, quoi d'autre ?
Alors, donc la laine, ça a été pas mal pour nos pantalons, puisque c'est vrai qu'on a souhaité, au fur et à mesure des collections, de proposer des looks. Comme on le disait donc au début, et le produit iconique reste le chemisier en soie imprimé. C'est vraiment ce qui est notre force, ce qui nous différencie aussi des autres marques, parce que comme tu le disais, les imprimés sont originaux, on les trouvera nulle part ailleurs. très colorées, avec un sens aussi, puisqu'il y a des histoires derrière chaque imprimé. Donc, tu ne vas pas porter l'imprimé à tache bleue, mais en réalité, c'est l'imprimé Les Hublots qui a été fait d'après des photos qu'un pilote nous a envoyées du ciel et donc on a découpé en forme de hublot. Donc, petit aparté, parce que c'est vrai que chez nous, l'imprimé est clé et le chemisier est vraiment notre produit iconique. Mmh. Néanmoins, donc, on a souhaité étoffer le vestiaire donc, avec des bas pour proposer des silhouettes complètes. Donc, on n'en fait pas énormément, mais on a quelques pantalons, quelques modèles de jupes qui permettent de porter ça en look, donc en laine. On a aussi cet hiver beaucoup étoffé une ligne de mailles, donc où on a fait de la laine et du cachemire, un mélange de laine et cachemire, qu'on est allé sourcer directement en Mongolie, là où sont élevées les chèvres du cachemire. C'est une super belle matière et ça nous tenait à cœur toujours, bien sûr, d'être là où sont les savoir-faire et là où sont les matières premières. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est un pari plutôt réussi parce que sur l'hiver, on avait besoin de cette offre un petit peu plus chaude, plus épaisse. Les qualités sont très belles, on a de très bons retours de nos clientes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose vers lequel on va tendre. Et après, outre les matières, on a aussi dans les autres matières dont je peux parler, il y a le coton bio aussi. Mmh. Ça fait deux saisons qu'on le travaille. Alors, le coton bio, on le travaille sous forme de t-shirt. En fait, l'idée, c'était de se dire, peut-être qu'on peut trouver un produit qui soit accessible, donc un produit assez entrée de gamme, puisque aujourd'hui, nos t-shirts sont à 49€, contre une chemise en soie autour de 155€. Mais en même temps, on voulait donc des t-shirts à message, colorés, un peu différents, mais toujours cette belle matière, cette belle main. La main, en fait, chez soi, c'est hyper important. Le confort des matières, se dire je vais pouvoir bouger dedans, je vais pouvoir être à l'aise et libre dans mes mouvements. Ça, c'est quelque chose qui guide le sourcing de toutes nos matières, quelles qu'elles soient. Nos laines, par exemple, ce n'est pas des laines structurées, c'est des laines qui sont assez fluides. Là, on a fait un pantalon ample en laine qui est absolument sublime, qui épouse la silhouette et qui est vraiment très fluide, très agréable. Et en fait, ce qu'on aime, c'est vraiment ce côté seconde peau qu'on va à la fois retrouver, donc bien sûr dans la soie, mais qu'on va essayer d'extrapoler dans d'autres belles matières qui apportent beaucoup de confort.
Et les matières naturelles, elles sont durables ? Plus durables ?
Alors oui, après on travaille aussi avec des matières d'origine naturelle. Mm-hmm. Donc c'est vrai qu'on travaille pas mal avec de la viscose. Mm-hmm. Donc la viscose, il faut savoir que c'est une matière qui est faite à partir de pulpe de bois, donc d'origine naturelle. Néanmoins, il y a effectivement une transformation avec des moyens plutôt chimiques. Donc après, c'est quand même une volonté de notre part d'avoir... en fait, une offre aussi un petit peu plus accessible que la soie, parce que la soie, c'est une matière qui coûte très cher. C'est une matière qui aussi, étant donné que c'est une matière naturelle, c'est une matière qui bouge, c'est une matière qui a un cours. Il y a un peu le cours de la soie, donc en fonction de l'offre et de la demande, le prix peut fluctuer. Donc nous, notre idée, c'était de proposer un vestiaire assez complet quand même, qui aille toujours dans ce côté... confortable, belle matière, belle main. Mais maintenant, je ne peux pas dire qu'on fait à 100% de l'éco. Ce serait mentir que de le dire.
Oui, bien sûr. Non, mais je pensais plutôt aux matières naturelles et notamment pour l'hiver, parce que c'est vrai que c'est difficile de trouver des alternatives. Et puis, les alternatives ne sont pas forcément plus écologiques, en fait. C'est le constat un petit peu du moment, mais la laine, ça reste une matière qui tient chaud, qui est durable, et on peut avoir un pull en laine qu'on garde pendant plusieurs dizaines d'années. Mmh. Et avec vos produits, c'est ce vers quoi vous tendez. C'est des produits qui sont forcément un petit peu coûteux à l'achat, mais qui vont durer plusieurs années. Mmh. Et ça, c'est hyper, hyper intéressant.
Oui, ce qui est sûr, c'est qu'on est clairement dans une philosophie un peu less is more, de se dire, Nous, les clientes chez soi, elles viennent pour s'acheter une belle pièce, c'est-à-dire une pièce qui va durer dans le temps, une pièce idéalement qu'elles pourront passer même à leurs enfants. On voit régulièrement des mamans et des filles qui viennent s'habiller d'ailleurs chez soi. Donc c'est vrai qu'on a une cliente assez large en termes d'âge. Donc oui, je me souviens encore d'une cliente rencontrée à la boutique qui m'avait dit « Mais moi, vous savez, je préfère mettre le prix et en fait, pour avoir des belles matières, j'en peux plus de porter un top que je vais acheter une saison chez Zara, je vais le porter 5 fois et puis en fait, après, c'est fini. » Et en fait, aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment des matières de qualité, durables, qui vont effectivement rester dans un vestiaire, et des matières avec des imprimés aussi indémodables, qui permettent de les porter un peu à toutes les sauces en fonction des modes qui changent au fur et à mesure des années.
Je voulais revenir sur la viscose que tu as mentionnée juste avant. Est-ce que vous aimeriez vous orienter plutôt sur l'utilisation du lyocell, qui est une alternative à la viscose, où les produits utilisés sont un petit peu moins chimiques, moins dangereux? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez imaginé? Et comment tu réfléchis à ce genre de projet? Est-ce qu'il faut se rendre au salon Première Vision? Est-ce que tu peux demander directement à ton fabricant? Comment ça se passe?
Alors tout à fait, le Tencel, c'est d'ailleurs une matière qu'on a déjà utilisée dans nos collections, qu'on retrouve dans un de nos modèles permanents, qui est notre pantalon ample en dénim. Donc pour l'instant, on l'a uniquement, et c'est là toute la difficulté, on l'a uniquement testé en uni. Après, ce qui est compliqué chez soi, c'est comme on fait de l'imprimé, en fait, nous, on se rajoute, disons, une casquette supplémentaire, hormis le sourcing, il va y avoir toute l'impression. Et donc, toutes les matières ne réagissent pas de la même façon à l'impression. Donc effectivement, on a des fabricants qui peuvent nous envoyer, on reçoit régulièrement des catalogues un peu de matières. Et donc nous, comme je le disais, il va y avoir deux choses qui vont guider en fait le choix. La première, c'est la composition de la matière. Et la deuxième, par exemple, je prends un exemple, on s'interdit le polyester. Donc ça, ça fait partie de nos principes de base, même si, et je crache pas dessus, il y a des très beaux polyesters, honnêtement.
Il peut y avoir des très beaux rendus de couleurs.
Qui ont des rendus magnifiques. Mais voilà, c'est un principe qu'on se met avec Julia. Et je me souviens qu'on avait eu le débat l'année dernière en se disant, mais regarde, il est magnifique, honnêtement. Il a un effet soie. Est-ce qu'on y va? Et en fait, on s'est dit non. Non, c'est pas soie. Soit c'est des belles matières, soit c'est des matières naturelles. Donc on se l'interdit. Donc on se met des interdits, c'est vrai.
Donc il faut faire des choix.
Donc il faut faire des choix, bien sûr. Donc il faut faire des choix sur les matières. Et donc après, au-delà du sourcing, nous, il y a tout ce côté impression. Puisque c'est vrai que la plupart des marques, achètent leurs tissus déjà imprimés. Donc c'est des tissus qui existent et après, on peut choisir les couleurs ou ce genre de choses. Nous, la particularité, c'est que toute la partie impression est faite en interne. Donc ce sont des tissus qu'on ne trouvera nulle part ailleurs, puisqu'ils sont créés de toutes pièces par Julia. Et donc, ce qui met beaucoup de temps, c'est en fait de caler les couleurs et de caler le rendu de cette impression. Puisque quand Julia va le créer, donc Julia, elle a plein de techniques de création différentes. Ça peut être fait à la main, à l'aquarelle. Ça peut être fait à partir de photographies. Ça peut être fait de photos satellites même, on a déjà fait. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? À partir de collages. Enfin voilà, elle a vraiment plein de techniques différentes qui ne sont pas forcément retranscrites de la même façon sur le tissu. Le degré de finesse, le degré de précision d'un trait de crayon, par exemple, ça va être hyper important et ça ne ressort pas de la même façon sur de la soie que sur un Tencel, que sur une viscose. Puisque en fonction de la base du tissu, si elle est un petit peu crêpée par exemple, le motif va un petit peu plus s'étaler et donc on aura plus de difficultés à avoir une ligne très précise. Donc en réalité, il y a pas mal de challenge supplémentaire pour vraiment réussir à caler à la fois la forme du motif et sa couleur. Donc aujourd'hui, oui, c'est un souhait qu'on a de regarder des matières comme du Tencel, des Naya ou ce genre voilà, de matières qui sont qui consomment moins en réalité. Mais maintenant, on a d'autres contraintes liées à l'impression. Mais on y va petit à petit.
C'est fou, en 4 ans, le chemin parcouru et la réflexion, comment ça évolue, tu vois. Est-ce que c'est des questions que tu te serais posées il y a 4 ans ? Pas nécessairement, j'imagine.
Non, pour être tout à fait honnête, pas du tout. C'est un cheminement. Après, comme je le disais en intro, ce qui est intéressant, c'est que ni Julia ni moi ne venons du milieu de la mode. Moi, donc, j'ai fait une école de commerce. En sortant, j'ai travaillé dans la cosméto. Et Julia, elle a fait une école d'art. En sortant, elle a travaillé en agence de pub. Donc elle vient plus du graphisme. Donc ce qui est différenciant aussi dans cette marque, c'est que finalement, c'est plus du graphisme appliqué à la mode, l'art appliqué à la mode, on va dire, plus que la mode pour la mode. Donc c'est vrai que honnêtement, on n'y connaissait rien. Au début, ni moi ni Julia, voilà, n'y connaissons rien. Nous, on aimait en tant que consommatrices les belles matières, donc la soie, ça nous parlait. Mais après, tout ce dont on vient de parler, on ne connaissait pas. Et donc aujourd'hui, il y a à la fois ces 4 ans d'expérience qui font qu'on a rencontré énormément de fournisseurs, qu'on a assisté à des conférences, qu'on a parlé à tout cet écosystème un peu mode qui fait qu'aujourd'hui, on comprend les enjeux. Et après, il y a en parallèle des évolutions du marché qui font qu'aujourd'hui, c'est indispensable et c'est impensable en fait de ne pas... prendre ces sujets en considération. C'est obligatoire. Enfin, je considère que c'est une obligation.
En fait. Pour toi, une marque, aujourd'hui, elle ne peut plus ignorer ces problématiques.
Elle ne peut plus. C'est plus possible. Honnêtement, c'est plus possible de passer à côté. Enfin, la société aujourd'hui a évolué, et tant mieux. Mais on le voit surtout. Enfin, je veux dire, c'est partout aujourd'hui. Ça fait partie de notre vie quotidienne, en fait. Et donc, ce n'est pas que la mode, c'est... c'est l'alimentation, c'est l'environnement, c'est... aujourd'hui, il y a un switch énorme qui est en train de se passer. Et je le vois, je le sens en tout cas, ma fille vivra dans un autre monde, c'est évident. Et donc, il faut qu'on enclenche cette bataille. Et donc, ça me paraît impensable de passer à côté aujourd'hui.
Mais ce qui est très intéressant avec soi, justement, c'est que vous évoluez et vous essayez de changer. Et ça, c'est vraiment comme ça. Moi, je pense en tout cas qu'on va réussir à créer des matières nobles qui consomment moins, mais qui permettent aussi d'avoir des très beaux imprimés, des très belles couleurs. Et c'est grâce à toutes ces marques qui sont demandeuses et qui ont envie d'aller de l'avant, et grâce aux consommateurs et aux consommatrices, bien évidemment, que ça va évoluer. Et si on reste avec les grandes maisons de couture qui sont là depuis des dizaines d'années et qui ne sont guidés que par le style, mais qui ne pensent pas le vêtement comme un tout qui s'inscrit dans un dans l'univers dans lequel on vit, je pense que c'est pas le bon raisonnement.
Oui, et après, la vraie grosse différence aussi entre justement jeune marque, petite structure et grosse entreprise, c'est que nous, on a cette flexibilité, cette agilité qui nous permet
Vous
de dire...
Libre.
Franchement, là, c'est évident, dans 6 mois, on sort un sac et il est éco-responsable. Et en fait, les décisionnaires, c'est Julia et moi, on est très connectés au monde. Et donc, c'est vrai qu'on a cette possibilité d'agilité, d'agir plus rapidement, je pense, en se disant... Parce qu'il y a quand même un peu de « gut feeling », entre guillemets, de se dire « bon, moi, au fin fond de moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que je pense être bien et être bon, à la fois pour la marque, mais aussi en tant que personne, qu'est-ce que j'ai envie de refléter ?» Donc oui, je trouve que, tu le disais très justement, il y a eu une évolution dans nos choix, dans nos pensées et qui ne va pas s'arrêter là. Et nous, on est très désireuses de se former, par exemple. Là, je sais qu'on a prévu une journée de formation avec une personne qui est experte sur tout ce qui est matière, justement, éco-responsable. C'est elle qui a commencé à nous introduire toutes les matières pour le sac, justement. Et donc, on va voir ce que ça va donner. Mais voilà, on est désireuses d'apprendre, d'en savoir plus et de permettre de faire bouger les choses aussi comme ça. Et je pense que c'est le propre des petites structures, c'est justement de pouvoir aller plus vite et de pouvoir faire bouger les choses rapidement. Mmh.
C'est la première fois en fait que je rencontre une marque qui a évolué autant, enfin une marque et les fondatrices et les fondateurs, parce que moi, quand j'ai créé le podcast, j'ai tout de suite choisi des marques qui étaient déjà assez engagées, parce que c'était le message que je voulais faire passer. Et en fait, avec le recul 3 ans après, je trouve ça très intéressant et pertinent aussi de rencontrer d'autres acteurs qui essayent aussi de s'améliorer et de rejoindre ce mouvement et de voir à quel point en fait ça impacte tout le monde. Et en faisant passer ces messages d'initiative positive, ça va résonner. Et même quelqu'un qui n'était pas du tout axé écologie va se dire « Ah oui, mais moi aussi, je pourrais peut-être faire quelque chose différemment. » Et c'est pour ça que je te rejoins là-dessus sur les enfants. Donc toi, tu es maman d'une petite fille et je suis persuadée qu'ils grandiront dans un monde différent où ce sera normal de s'interroger sur le vêtement, d'où il vient, comment il a été conçu, quelles matières ont été utilisées, le processus qui a été mis en place pour le réaliser. Et je pense que pour nos enfants, ce sera une évidence.
Complètement. Mais même moi, depuis que je suis maman, donc ça fait 1 an depuis aujourd'hui, puisque ma petite fille a 1 an aujourd'hui, je vois que j'ai évolué aussi dans ma façon même de consommer. Dans ma façon de consommer pour elle, c'est évident. Ne serait-ce que prendre une app comme Yuka. Moi, honnêtement, pour être tout à fait transparente, je ne l'utilise pas forcément énormément pour moi. En revanche, dès que ça touche à mes filles, je peux passer des heures en pharmacie à tout scanner pour voir quelle est la meilleure lingette à utiliser, le meilleur gel douche. Et donc, je pense que ça se fait petit à petit, mais c'est évident qu'elle, en fait, elle nous regardera et elle nous dira « Mais vous étiez des mastodontes, quoi. À quel moment vous ne pensiez pas à faire ça, 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 ça ?» Et donc, j'ai envie aussi de lui inculquer ses valeurs et de l'éduquer là-dedans. Donc, c'est un vrai apprentissage, même au quotidien.
Et encore plus avec les enfants. Mmh. Parce que les enfants, ils nous renvoient quelque chose de fort. Ils nous renvoient notre image, en fait. Mmh. Et donc, si tu ne fais pas bien, ils te le renvoient en pleine face.
Complètement. Boomerang.
T'as intérêt à tenir à carreau. Oui, et si on revient à soi, où est-ce qu'on peut trouver vos produits ?
Alors,
sur votre site internet, bien sûr.
Exactement. On a aujourd'hui comme canal de distribution notre site internet, qu'on est d'ailleurs en train de refaire et qui va sortir tout beau, tout neuf, normalement d'ici 10-15 jours. Donc ça, c'est la grosse activité. On a, comme je le disais un petit peu plus tôt, ouvert une boutique il y a 1 an, qui est située à Paris, dans le Marais, rue Vieille du Temple. Ça a été un gros projet pour nous et un gros pari également. Tout simplement pari financier déjà. On a fait un énorme emprunt bancaire, on a des charges fixes mensuelles maintenant, qui font que on a des employés, on a un loyer à payer, on a du merch, enfin voilà. Donc c'était assez flippant franchement au début, mais c'est un challenge qui s'est plutôt bien passé. On est honnêtement très contente, et d'ailleurs là on va ouvrir la deuxième boutique dans quelques mois à Saint-Germain. Donc, ce qui nous permettra d'avoir un ancrage rive droite et un ancrage rive gauche à Paris. Et on a également un projet pour cet été de s'installer à Saint-Tropez, où on y sera pour toute la saison, donc d'avril à octobre. Donc ça aussi, ça va être un gros, gros nouveau challenge qui va nous permettre d'être... dans une station balnéaire, donc aussi plus proche de nos produits qui sont assez estivales, enfin en tout cas pour l'été, avec des petites robes de plage. Donc voilà, on va tester tout ça.
Vous faites des maillots de bain aussi ?
Alors, on a fait une collab avec une marque que j'adore et je crois que tu la rencontres, qui s'appelle Anja.
Oui.
on a fait une collab l'année dernière avec elle, qui avait super bien marché, où elle, en fait, à la base, fait plutôt des maillots unis avec de très belles couleurs et de magnifiques coupes. Elle t'en parlera mieux que moi. Et on a fait pour la première fois un maillot imprimé. Qui avait cartonné l'année dernière. Et donc, bah, justement, à Saint-Tropez, on part avec elle. Donc, on partagera la boutique toutes les deux, ce qui permet de faire une bonne association, justement, maillot et petite robe d'été.
Ouais, c'est pertinent. Et vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe ?
On est honnêtement une toute petite structure. Donc, on est ma sœur et moi. Après, on a trois stagiaires qui travaillent avec nous au bureau. Qui ont des rôles assez distincts. Bah, y en avoir une qui est plutôt sur tout ce qui est SAV, intégration des fiches produits et newsletter. On en a une qui va être en B2B, donc qui va travailler plutôt avec les distributeurs. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on a une trentaine de boutiques qui nous revendent. C'est une petite partie, honnêtement, de notre chiffre d'affaires. En France et à l'étranger. Mmh. Là, on vient de signer, on est très contente, un super beau contrat avec avec un assez gros au Japon, donc ça devrait arriver là dans quelques mois chez eux.
Ah, cool.
Donc ça, c'est trop cool, ouais, on est très contentes. Et on va tester ça. On avait déjà une boutique qui nous revendait à Tokyo, mais voilà, ça va être le test. Donc voilà, donc on a une trentaine de boutiques, donc cette personne s'occupe de gérer les distributeurs et de gérer la boutique également. Et après, on a une stagiaire en graphisme qui, elle, va plutôt aider Julia sur tous les outils de communication. Donc, petite équipe, puisqu'on est 5 au bureau, dont en fait 2 fixes. et après, on a 2 filles qui sont super à la boutique, Jobis et Lyubov, sans qui bah, toute cette aventure pourrait pas fonctionner, clairement. C'est nos premières ambassadrices de marque, c'est les premières à présenter la marque. Elles le font extrêmement bien. On est super contente de travailler avec elles. Justement, une des deux, donc Lyubov, est nommée responsable de boutique de la deuxième boutique, donc pour assurer vraiment la transmission, ouais, parce qu'elle connaît très bien l'univers de marque. Donc voilà, on a eu la chance de trouver des perles rares. Et je pense que sur le retail, c'est un des enjeux majeurs, le recrutement, d'avoir... des personnes motivées, des personnes engagées aussi. Et ça, c'est une grande chance qu'on a. C'est qu'on a deux filles qui adorent la marque et qui ont le sourire dès qu'elles en parlent, en fait. Et oui. C'est ce que veut le consommateur.
Et puis vous aussi.
Et nous aussi, clairement.
Et donc après, au niveau des collections, il y a le sac sur lequel vous travaillez en ce moment, donc qui sera en cuir alternatif, cuir végétal. Il va sortir quand ? Pour l'été ou plus tard ?
A priori à la rentrée. Sur septembre, exactement. Et on va potentiellement le lancer sous forme de crowdfunding. Toujours dans cette idée de contacter, sonder, interroger nos clients, partager avec eux. On va le faire un petit peu en précommande, justement. Ouais. Pour aussi nous permettre d'ajuster les quantités. On en parlait un petit peu tout à l'heure. C'est un des enjeux majeurs dans le prêt-à-porter, clairement. Donc voilà, ça va nous permettre d'ajuster ça, de proposer aussi différents coloris, puisque en gros, on va pouvoir faire plusieurs prototypes, et puis en fonction de la demande, on produira ce qui a été retenu. Donc ça va être nouveau pour nous, ça, le côté un peu précommande, mais toujours dans cette idée de s'engager encore plus avec notre communauté et d'encore plus les faire réagir sur ce qui leur plaît et ce qui leur plaît moins.
Oui, c'est une bonne façon, je pense, de lancer un nouveau produit. Et pour vous, ça permet aussi d'ajuster les stocks, comme tu le disais. D'ailleurs, comment ça se passe aujourd'hui ? Vous avez des produits, des vêtements permanents auxquels viennent s'ajouter quelques collections dans l'année ?
Exactement, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, on a une petite collection permanente, une quinzaine de produits. C'est principalement des chemisiers, donc chemisiers iconiques, avec des imprimés qui... imprimés best-sellers, en fait, qu'on a lancés dans des collections précédentes et qui ont très bien fonctionné, qu'on a décidé de garder au catalogue. Donc aujourd'hui, l'imprimé Hublot dont je parlais en est un, l'imprimé Mamie Odette, alors il est sympa celui-là, c'est un hommage à notre grand-mère, notre arrière-grand-mère même, Mamie Odette, qui nous faisait une salade d'artichaut à l'orange. Et donc, sur le chemisier, on va retrouver la recette qui est scannée, écrite à la main. Et Julia a peint les artichauts et les oranges à l'aquarelle qu'on va retrouver sur ce chemisier. Ça, c'est un de nos permanents qui marche très bien. Et là, on vient de rentrer un tout nouveau qui est assez rigolo, qui a très bien fonctionné cet hiver. En fait, cet hiver, notre collection s'intitulait « Ode à la femme ». Et donc, c'était une invitation à la féminité, une invitation à voir la femme via le prisme de différents artistes. Donc, on a eu les nanas de Niki de Saint-Phalle, mais aussi la colombe de Picasso revisitée. Enfin, voilà, il y a eu pas mal d'interprétations de la femme. Et notamment, on a fait un imprimé qui est un hommage à la plus fashionista des fashionistas, la reine d'Angleterre. Donc on a un imprimé reine d'Angleterre qui est assez sympa, qui est assez, il est assez discret, il est sur fond blanc, bleu, blanc, rouge. Et en fait, de loin, tu as l'impression que c'est finalement des petites taches. Tu ne vois pas forcément. Et quand tu t'approches, tu te rends compte que c'est la reine Elisabeth avec ses différents tailleurs, puisqu'elle est connue pour ses tailleurs de toutes les couleurs.
Monochrome.
Voilà, exactement. et donc ça, c'est un imprimé qui passe en permanent aussi cette saison. Donc on a, je dirais, une quinzaine de permanents. Et après, à côté de ça, pendant l'année, on a deux collections donc qui viennent rythmer l'année. Une en printemps-été, une automne-hiver. Et dans l'idée, on essaye de ponctuer ça chaque mois, en général, par des collaborations ou des nouveaux produits qui nous permettent aussi d'avoir une prise de parole et qu'il se passe toujours quelque chose. En fait, on le voit aujourd'hui, les clientes, elles peuvent se lasser assez vite et elles ont quand même envie de nouveautés assez rapidement. Donc, ça va permettre, avec les collaborations, de proposer des nouveaux produits. On parlait du maillot tout à l'heure. C'est un savoir-faire qu'on n'a pas, nous, aujourd'hui. C'est assez technique quand même. Donc, ça permet de croiser, en fait, les compétences. On a pu faire des chaussures, des bracelets, donc qui nous permettent de toucher d'autres secteurs. Et après, la collab, ça permet aussi un partage de communauté, de faire découvrir la marque d'autres clients et de fusionner avec des marques à ADN similaires, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on développe assez fréquemment. On en a une là qui est en train de sortir aujourd'hui. avec Gambette Box, où on leur a fait un tote bag avec un imprimé qui est un de nos imprimés best-sellers qui s'appelle l'imprimé Pomelo, qui a un effet trompe-l'œil ou de près ou de loin. En fait, de loin, on dirait que c'est des fleurs. En fait, de près, on se rend compte que ce sont de juteux pomelo qu'on a envie de déguster. Donc ça sort aujourd'hui. Donc voilà, on fait pas mal d'initiatives. On essaye d'être assez active pour toujours proposer des nouveautés, des nouvelles choses, des nouveaux imprimés.
Vous avez collaboré avec une artiste aussi récemment, Agathe Sorlet.
Oui. Tout à fait.
Comment ça s'est passé, cette collaboration ? Où est-ce que vous l'avez rencontrée ? Via Instagram ou pas du tout ?
Alors ça, incroyable, cette histoire. Donc nous, on connaissait très bien Agathe Sorlet, on adorait son univers. On avait, moi, je m'étais même acheté sa collab avec Princesse Tam Tam. Donc c'est pour dire vraiment, j'adorais son univers. Et un jour, on reçoit sur Instagram « Bonjour, je viens de voir votre collab avec Isabelle Feliou, parce qu'on avait fait une autre collab avec une illustratrice. J'ai trop envie de m'acheter la chemise, mais elle est en rupture. Par hasard, vous n'en avez pas une qui traîne en boutique ?» Signé Agathe Sorlet. Donc là, on se regarde avec Julia, on se dit « Ah, mais incroyable, regarde, c'est notre dream collab en plus !» Donc on lui répond Il y en a une en boutique, on peut te la mettre de côté. Et by the way, tu sais que t'es notre dream collab, tu veux pas qu'on se rencontre. Et donc, ça s'est fait comme ça.
Trop marrant.
Donc, histoire assez rigolote. Et on a rencontré un petit bout de femme hyper dynamique, hyper peps, qui a un super trait de crayon, qui est très engagée aussi avec ses dessins. On a tout de suite adoré. Nous, on adorait son univers et c'est vrai que ça match assez bien avec l'univers assez féminin de soi. Et donc, on lui a laissé carte blanche. C'était la deuxième fois qu'on le faisait. On lui a laissé carte blanche pour créer un imprimé. Et donc, elle a fait un imprimé qui est assez marrant avec des femmes nues, dansantes, mais voilà, qui célèbrent la vie et toujours dans cette lignée un peu ode à la femme qui nous correspond aussi. Et c'était un super projet. On était vraiment super contentes de ce projet.
Super, j'indiquerai de toute façon le compte Instagram aussi d'Agathe Sorlet si les auditeurs ne connaissent pas. Et Julia, quand elle imagine les vêtements, ça n'a pas été trop difficile de laisser la main et de proposer une carte blanche parce que c'est un peu tous les vêtements sont ses bébés en fait.
Clairement, tous les vêtements sont ses bébés et donc c'est pour ça qu'elle ne va pas laisser n'importe qui en carte blanche. En plus, Julia, elle sait vraiment ce qu'elle veut et elle a une idée très précise de ce qu'elle aime et de ce qu'elle n'aime pas. Mais en fait, elle sait aussi facilement reconnaître la patte d'un artiste et savoir si ça va matcher ou pas. Et en fait, elle l'a vu directement. Elle aime son trait de crayon, elle aime son univers, elle aime son engagement. Et donc, elle savait que ça allait fonctionner. Et après, là, comment ça s'est fait ? C'est Agathe qui a donc dessiné les silhouettes. Julia a retravaillé un peu la compo. Donc là, en l'occurrence, c'est en forme de rond. Elles ont ensemble calé les couleurs. Donc, il y avait quand même un côté un peu à quatre mains. Mais c'est vrai que c'est principalement Agathe qui est à l'origine du motif et on adorait. Et c'est vrai que c'est un moment sympa, en fait, quand on découvre un nouveau motif qui ne vient pas de la tête de Julia, mais qui néanmoins représente bien soi. C'est sympa aussi de se dire que...
Avec les motifs que Julia, elle imagine, est-ce que toi, tu as ton mot à dire ou c'est elle qui gère ?
Alors, comment ça se passe de façon très concrète ? Quand Julia lance la créa d'une nouvelle collection, en gros, moi, je vais lui faire un peu une analyse de l'historique. En lui disant, regarde, l'année dernière,
on a fait ça,
ça a bien fonctionné, ça a moins bien fonctionné. Donc, qu'elle ait un peu une idée aussi. L'idée, c'est pas qu'elle soit complètement décorrélée. Chez soi, les motifs sur fond blanc, les chemisiers sur fond blanc, ça fonctionne toujours très bien. Donc, je lui dis, essaye d'en inclure. Après... Elle a une phase, je dirais, ça lui prend en général un mois et demi, de création d'imprimés où elle se met dans sa bulle. Elle se met, en général, soit elle le fait chez elle, soit dans une pièce à part au bureau, mais elle le considère vraiment comme sa petite bulle d'oxygène où elle est dans son atelier, enfermée, à faire des croquis. Et ma sœur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est très perfectionniste, très, très, très. Et donc, elle voudra jamais me montrer son travail en cours de travail. Elle voudra me montrer uniquement la version finalisée. Donc, pour moi, c'est une attente
hyper longue.
très, très longue. Parce que j'ai un mois et demi avant de me dire, qu'est-ce qui va sortir ? Qu'est-ce qu'on va vendre ? Comment ça va se passer ? Et donc, en général, au bout d'un mois, elle commence à me présenter les premières pistes. Et c'est là où on va échanger... Après, c'est des ressentis, on demande pas mal au bureau aussi ce qu'elles en pensent, un peu autour de nous. Et ce qu'on a mis en place depuis assez récemment, c'est justement des questionnaires à nos clientes, toujours dans cette lignée, en leur demandant qu'est-ce que vous pensez de ce motif sur 1 à 5. Et ça nous permet de jauger aussi, parce que c'est assez difficile, finalement c'est assez subjectif. Et nous, ce dont on se rend compte, c'est que si un motif fonctionne, il marchera sur toutes les coupes, sur toutes les matières. Et voilà. En revanche, si un motif ne plaît pas, et ça peut être lié aux couleurs, C'est un flop, quoi. donc c'est assez important de bien calibrer le motif. Et donc, très souvent, on fait des allers-retours. Ça va plus être sur les couleurs ou sur l'échelle pour avoir un équilibre entre, par exemple, petit imprimé et gros imprimé. Ça, c'est quelque chose qu'elle fait de toute façon d'elle-même, puisque, comme je le disais, on a une clientèle assez large. Donc, on va aussi bien avoir la jeune fille de 25 ans que la maman, voire la femme un peu plus mature de 60 ans. Et donc, il en faut un peu pour tous les goûts. Il faut à la fois du très petit motif, très discret, où c'est limite un faux uni, en fait, mais il y a cette petite signification et cette petite patte soie. Je pense à un de nos imprimés best-sellers, La Mer. Quand on le voit de loin, c'est un joli bleu avec des nuances de blanc. Et en fait, quand on s'approche, c'est une multitude de poissons qui forment cet imprimé. Et à l'inverse, on va avoir des imprimés beaucoup plus gros, beaucoup plus figuratifs, l'imprimé Mamie Odette, l'imprimé Pomelo, sont aussi l'image en fait, de soi, mais qui fonctionnent tout aussi bien. Donc, il faut trouver le bon équilibre en fait, entre les deux. Pareil, après, le choix des couleurs, ça, c'est hyper important. Et ce qui est compliqué, c'est que ça ne rend pas pareil entre le dessin fait à la main sur papier et puis le tissu. Donc ça aussi, c'est des calages qui prennent du temps. Ça nous est arrivé, par exemple, l'été dernier, on s'est planté. On s'est planté sur un calage couleur. Et en fait, on n'avait plus le temps, donc il fallait le valider. Et donc, on l'a validé. Et en fait, il n'a pas fonctionné. et donc, c'est primordial. Et donc là, aujourd'hui, typiquement... je sais que sur cette collection, on s'est dit non, on ne refait pas deux fois la même erreur, on n'est pas contente de celui-là, tant pis, on attend et on refait et on refait et on refait et puis il sortira plus tard, tant pis.
Ouais.
Mais voilà. Mais de toute façon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous avez appris de vos erreurs. Et en cas de, de flop, vos vêtements, après, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Vous les déstockez comment ça se passe?
Alors, on a plusieurs...
J'imagine que vous ne les jetez pas.
Non, on ne les jette pas, je te confirme. Il y a plusieurs cas de figure. Il y en a un déjà où on travaille avec des associations. On travaille notamment avec une association qui s'appelle Joséphine Beauté, qui est une association qui nous parle beaucoup puisque, en fait, elle aide les femmes à retrouver confiance en elles. Elles ont un salon solidaire à Paris, notamment, vers Barbès, où donc, c'est un salon de coiffure, make-up, soins, et qui propose justement à des femmes qui sont en situation de précarité de venir se faire chouchouter et de venir se dire en fait, qu'elles valent la peine et prendre soin de soi. Prendre soin de son aspect physique, prendre soin aussi de ses maux, de dos. Finalement, c'est déjà accepter qu'on existe et c'est faire un pas vers aller mieux. Et donc, à côté de ça, en plus de tous ces soins, ils ont un dressing solidaire qui permet à ces femmes de... Alors, pour la valeur symbolique de 1 euro, d'avoir accès à des tenues qui leur permettront, par exemple, de passer des entretiens. Donc, nous, c'est des choses... c'est des associations... c'est une association avec qui on collabore très régulièrement, tous les mois. Et donc là, on leur fait des donations, typiquement, de produits qui... Après, quand c'est des flops, ça n'a pas fonctionné commercialement, mais bon, le produit est très bon.
Bien sûr.
Et il a une utilité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Là, on l'a fait aussi. Il y a un événement sur Lyon qui s'appelle la Maison Rose, pour qui on a offert aussi des vêtements. Et c'est pour la lutte contre le cancer. Donc, elles font en fait toute une vente... caritative et donc là aussi donc ça c'est quand même une des choses qu'on met en avant et qu'on essaye de faire de plus en plus et après ça nous arrive là par exemple on a fait une vente sur un site qui s'appelle The Braderie, je sais pas si tu connais.
Non. Bon, un peu le même principe que vente privée et tout.
Oui voilà, dans le genre mais plus moderne, qui aussi a une plus jolie image de marque. Mmh. C'est un site qui est assez nouveau, en fait, et qui permet de déstocker, parce que oui, c'est du déstockage, mais de façon jolie. Ils vont re-shooter tes produits, mmh. ils vont mieux communiquer sur la marque, parce que le déstockage, c'est quand même pas très bon pour son image.
Bah oui,
donc, voilà, c'est les principales choses qu'on fait.
Je savais pas du tout pour l'association, j'ai loupé cette info en préparant ouais. l'interview.
En fait, c'est un projet qu'on a lancé en septembre de cette année, projet qui s'appelle Être Soi, où dans l'idée, on est parti, en fait, l'idée c'est de partir à la rencontre de femmes de la vraie vie et de les interviewer justement sur la confiance en soi, l'amour de soi. Il y avait à la fois, d'ailleurs quand on a créé soi et quand on a donné le nom soi, il y avait à la fois le lien à la matière, mais il y avait aussi le lien à soi, créer des vêtements pour soi. Donc ça a toujours fait partie de nos valeurs de marque. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est que c'était toute une campagne au début qui mettait en lumière des vraies femmes. Donc, on a aussi bien eu une femme qui avait la cinquantaine, les cheveux grisonnants, qu'une femme qui faisait une taille 44. Et donc, on est parti vraiment à la rencontre de ces femmes pour qu'elles nous expliquent un petit peu plus qui elles sont. Qu'est-ce que c'est d'être soi et en savoir plus sur l'amour de soi, sur la confiance en soi. Donc on a fait des petites interviews, la chanson qui te donne confiance en soi, les femmes qui t'aident aujourd'hui dans ton quotidien. Et donc on va régulièrement, là l'idée c'est de le faire tous les mois. D'ailleurs, là, on a une action prévue pour le 8 mars, pour la journée de la femme, où on va à la rencontre de femmes qui ont des choses à dire, mais de femmes du quotidien, donc de femmes de la vraie vie, vont nous éclairer sur la confiance en soi. Et en fait, en plus de ça, pour appuyer ce message, et c'est comme ça qu'on en est venu à rencontrer l'association Joséphine, l'idée c'est que chaque mois, une femme, donc cette femme qu'on interview, fasse une sélection de produits, en gros, qu'on la prenne en photo portant ses produits, et que sur un week-end, on reverse en gros une partie des ventes à l'association Joséphine. Donc on a aussi ce rapport avec cette association.
D'accord, oui, donc il y a un partenariat, enfin des donations financières.
Exactement.
et vêtements.
Oui, c'est ça.
Exactement. Ok, super. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Donc, comme d'habitude, j'indiquerai de toute façon dans la barre de description de l'épisode le lien vers soi, le site, tout ce dont on a parlé. Et puis, à très bientôt.
À bientôt.
Merci. Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Pour participer au jeu concours et tenter de remporter 2 places pour le film 2040, je vous invite à remplir le formulaire situé dans la description de l'épisode. Comme toujours, ce sont vos avis laissés sur les plateformes d'Apple Podcast et d'Ico Podcast qui m'aident le plus. Grâce à eux, mon travail est valorisé et je peux ainsi le faire découvrir à d'autres auditeurs. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt !